Bonjour à tous. Donc, nous allons faire une présentation à trois voix pour vous présenter le projet Terraforma, donc un projet PA3 et Québec Plus. Alors, c'est une présentation à trois voix, mais le projet a été écrit à l'aide d'une centaine de personnes, en fait. Donc, c'est vraiment un travail collectif que je souhaite saluer. Alors, le projet s'ancre dans le défi de l'Anthropocène. L'homme a modelé son environnement pour exploiter les ressources et au point où l'habitabilité de la Terre est aujourd'hui remise en question, et notamment parce qu'il a altéré des interactions complexes qui existent entre le vivant et les géoécosystèmes. Dans ce contexte, les observatoires sont cruciaux pour documenter sur le long terme, comprendre et modéliser les trajectoires passées et futures de nos territoires. Il est cependant nécessaire de développer une approche holistique pour relever les défis. C'est tout l'enjeu du projet Terraforma qui vise à concevoir et tester les observatoires in situ, apportant une nouvelle vision de nos systèmes qui s'appuie sur une diversité de points de vue. Donc, ce projet d'équipement a été soumis à l'appel d'offres PIA3 Equipex Plus et propose d'hybrider les approches des infrastructures de recherche RZA et OSCAR pour créer des observatoires intégrés. Comme vous le voyez, le projet rassemble largement les instituts thématiques et technologiques du CNRS, mais bien au-delà des infrastructures de recherche, EPIC et une entreprise. Alors, le projet propose de changer de paradigme dans notre stratégie d'observation des géo-éco-sociosystèmes. La question centrale est la suivante. Comment explorer et comprendre les relations et interactions entre les humains, les organismes vivants, donc micro-organismes, flore et faune, et non-vivants, donc air, eau et sol? Et ces interactions donnent-elles accès, ces relations donc, donnent-elles accès à une représentation renouvelée de ces systèmes complexes? C'est ainsi une nouvelle terraformation des territoires dans l'Anthropocène qui doit permettre d'alimenter des modèles intégrés, de mieux prévoir les trajectoires. Le projet développé et déployé des réseaux de capteurs hétérogènes pour développer une approche multi-messager à l'échelle du territoire, c'est-à-dire déployer et contrôler des capteurs communicants et intelligents et construire des antennes et des capteurs hétérogènes, de capteurs hétérogènes adaptatifs et évolutifs. Alors, les défis techniques sont l'ambition est là, mais les défis techniques sont importants. D'abord, d'une part, il s'agit de développer des capteurs mobiles et in situ. Ils doivent fonctionner en continu avec des sources d'alimentation intermittente, être bas coût et embarquer une intelligence, notamment pour définir l'information pertinente qui est utilisée. D'autre part, il s'agit de disposer d'une infrastructure de communication qui permet de déployer des réseaux de capteurs hétérogènes capables de coupler les dynamiques vivantes et non vivantes et d'opérer le changement d'échelle. Ainsi, le projet propose de s'appuyer sur les nouvelles technologies pour qu'elles servent nos questions scientifiques sur les observatoires. Alors, le projet a été organisé d'une manière assez lisible autour de 5 VP de développement et un VP d'exploitation qui vous seront présentés, mais également autour de 4 axes transverses, donc l'intelligence artificielle, la duplication des capteurs en petite série, la gestion des données et la montée en compétence des équipes. D'une manière générale, il s'agit de contribuer à la définition des variables essentielles, stock et flux d'eau, d'énergie et de biota. Un autre enjeu de ce projet national est de définir un cadre qui permettra de favoriser le cofinancement d'actions locales, régionales ou nationales. L'infrastructure de communication, donc ce VP3, est un VP essentiel, qui souligne que l'instrumentation se termine lorsque les données sont conformes au format FAIR. Il s'agit de créer des pipelines faisant le lien entre les capteurs, qu'ils soient développés dans Terraforma ou non. Hein, c'est aussi nos capteurs qui existent déjà sur les sites. Et faire le lien avec les applications, ici les bases de données et les serveurs, par exemple. Il s'agit également d'automatiser des tâches répétitives comme le transfert automatique de données depuis du capteur, depuis les capteurs, la prévalidation des données et la prémise en forme pour les bases de données. La clé se situe autour de deux objets. D'abord, les plateformes de proximité qui permettent de connecter les capteurs sur des réseaux longue distance et basse énergie, et d'une plateforme centrale qui va traiter, agréger les données hétérogènes qui ensuite les transmet sur des réseaux plus classiques et vers les serveurs de données. Pour vous présenter le VP2, je vais vous présenter la démarche en fait pour construire Terraforma. Vous avez été sollicité en amont pour le projet, donc les deux infrastructures de recherche, RZA et OSCAR, pour définir les besoins des observatoires. Le défi était ensuite d'identifier les potentiels technologiques en cours de développement et de susciter des innovations pour une adaptation in situ. Et c'est là toute l'importance d'avoir pu impliquer les instituts plus technologiques du CNR. Alors, il existe déjà une vaste communauté qui s'intéresse de près au développement de capteurs environnementaux. Et par exemple, ce que fait Vincent Rimbaud, donc chercheur INSIS à Toulouse, et qui développe ce fluorimètre capable de mesurer des concentrations en chlorophylla avec une très bonne résolution. Et c'est un capteur open source et avec un coût qui coûte 50 euros. Et donc, le projet s'est appuyé sur ce qui a été développé pour proposer un capteur multiparamètre, mais qui permette d'une part de répondre aux attentes les plus usuelles pour la mesure en rivière et dans les nappes, et puis surtout de passer de l'information de concentration à l'information de flux de matière, qui est éminemment importante, puisque c'est le flux de matière qui donne la clé vers les processus aux interfaces. Encore une fois, le coût est relativement maîtrisé, donc c'est encore à définir. Donc, d'une manière générale, le VP2 est constitué de 8 développements de capteurs, donc je vais pas en parler. Vous avez des photos, vous pouvez retrouver aussi sur la présentation les principales délivrables et puis les nouvelles opportunités qu'ils ouvrent. Ce que je vous propose maintenant, c'est laisser la voix à Arnaud qui va nous présenter le VP28 sur les pièges audio-vidéo.
Oui, alors effectivement, dans le contexte actuel sur ce type d'approche. Donc Laurent, je te laisse faire le. Voilà, donc le contexte dans lequel on se trouve, hein, on a donc une grande variété d'applications autour du piégeage audio et vidéo, hein, qu'il s'agisse d'identifier des espèces, d'attester donc de la présence de certaines espèces, ou d'aller jusqu'à des mesures plus globales de biodiversité pour différents types de communautés animales. Qu'il s'agisse d'approches plus intégratives sur la signature sonore, hein, de paysages acoustiques, avec par exemple la possibilité de caractériser les sons liés à l'anthropisation et de développer donc des approches qui vont intéresser aussi les sciences humaines et sociales. La possibilité enfin de collecter des images qui vont être utiles pour l'étude des écosystèmes, hein, que ce soit pour appréhender la phénologie de la végétation ou des problématiques en hydrologie, par exemple la remise en eau de cours d'eau temporaires. Donc l'intérêt de ces approches, hein, ce sont des méthodes qui sont non-invasives et peu coûteuses et qui vont néanmoins permettre d'acquérir des données fiables. Alors, diverses solutions commerciales existent déjà. Vous avez des exemples ici sur les photos à gauche, donc des dispositifs que vous connaissez peut-être, que vous utilisez peut-être, comme par exemple l'AudioMouse qui permet de faire des mesures en écho-acoustique. Dans le cadre de Terraforma, notre objectif, ça va être de proposer une solution qui soit à la fois polyvalente, performante, donc une exigence en termes de qualité technique, avec un coût maîtrisé néanmoins. Et donc pour arriver à concilier ces différents impératifs, ces différents objectifs, Il est prévu donc de développer un outil qui soit open source, qui soit modulaire également, et qui va donc de ce fait permettre d'adapter aussi, en fonction des usages, en fonction des questions, d'adapter l'outil donc à des situations spécifiques. Alors, l'enregistreur proposé dans Terraforma est basé donc sur la carte QualiLife, qui est développée par nos collègues toulonnais du SMIOT et du LIS. C'est une carte donc, qui présente 5 canaux d'enregistrement avec une gamme de fréquences, vous le voyez, qui est très large, hein, puisque on va pouvoir couvrir donc, des fréquences de 4 Hz à 500 kHz, donc à peu près toutes les vocalises, notamment des groupes animaux, y compris les chiroptères. Cette carte présente une intelligence artificielle embarquée. Hein, donc Laurent insistait sur les enjeux d'apporter finalement l'IA au plus près des capteurs. Et donc là, cette intelligence artificielle embarquée, elle va notamment permettre d'optimiser la consommation d'énergie en ne réveillant donc le système d'enregistrement que lorsque l'on a certains événements particuliers, certains sons dans certaines gammes de fréquences. À ce moment-là, le système va enregistrer donc l'information pertinente. Et l'IA va permettre aussi certaines analyses des données enregistrées, hein, de la reconnaissance de patterns, par exemple, arriver à tester donc de certains sons de la vocalise de certaines espèces, par exemple, également calculer des indices intégratifs en termes de signatures acoustiques, de paysages sonores. Et ces informations donc, pourront être transmises à distance via une connectivité LoRa. Alors, le protocole LoRa, hein, son intérêt, c'est d'être très peu consommateur d'énergie, de permettre une transmission à longue distance, relativement longue distance, hein, plusieurs kilomètres. Mais par contre, l'inconvénient, c'est une bande passante faible. Et donc, il va falloir pré-traiter la donnée, hein, donc, d'où l'intérêt de l'IA. Et en aucun cas, donc, on va transmettre un flux audio, par exemple, hein, mais on va vraiment transmettre uniquement les données signifiantes qui ont été analysées au préalable. Donc, je parlais d'organisation modulaire, hein, donc plusieurs modules optionnels. Pour la vidéo, donc une caméra intelligente open source sera également disponible. Un module d'intelligence artificielle plus avancé pour des analyses plus complexes, hein, pour des tâches qui exigent un petit peu plus de puissance de calcul, par exemple pour identifier les différentes espèces au sein d'une communauté. Également donc un packaging spécifique pour certaines utilisations. Par exemple, il est prévu d'intégrer donc l'enregistreur audio-vidéo à des mangeoires pour oiseaux. Et enfin, la possibilité de connecter également un hydrophone. Alors, quand on parle d'hydrophone, donc enregistrement de son milieu aquatique, on pense par exemple aux vocalises des cétacés. Mais des études récentes ont montré en fait tout le potentiel de ce type d'approche, y compris dans les écosystèmes aquatiques continentaux, avec un univers très peu connu, la possibilité donc d'enregistrer les vocalises de certaines espèces animales, certains insectes notamment, mais également d'enregistrer des processus à l'échelle de l'écosystème. On peut par exemple écouter les plantes aquatiques qui photosynthétisent. Voilà, le coût de revient, une gamme assez large, hein, 75 à 950 euros. 950 euros, donc ça, c'est vraiment le module complet avec toutes ces options. Et par contre, 75 euros, une version simplifiée avec uniquement un ou deux canaux d'enregistrement, notamment pour des approches assez basiques en termes d'enregistrement de signatures acoustiques, mais avec néanmoins déjà une intelligence artificielle embarquée.
Merci beaucoup Arnaud et Laurent et bonjour à tous. Ici, il s'agit aussi de développer un système de capteurs innovants et des réseaux de capteurs Terraforma qui puissent être aussi utiles pour le développement durable de nos socio-écosystèmes. Parce qu'en fait, nous avons déjà un large nombre de données et de capteurs qui sont actuellement disponibles, mais qui ne sont malheureusement pas toujours utilisés. Nous expliquons cela sur la base de la littérature scientifique et sur la base de trois hypothèses que nous avons développées ensemble avec un large nombre de collègues, une équipe interdisciplinaire qui inclut Olivier Ragnaud, Frédéric Etoati, Alexandra Arène, Didier Donzès, Nicolas Flippot, Virginie Gérard, et j'en oublie bien sûr d'autres. Donc, nous estimons que pourquoi les personnes n'utilisent pas toujours ces capteurs et ces données, peut-être parce que les capacités des usagers est limitée, peut-être parce que ces données et ces capteurs et ces réseaux ne correspondent pas aux besoins réels de la science, de la société, peut-être aussi parce que entre le temps de conception et la phase de déploiement et ensuite la phase de génération des données et leur analyse, il y a des nouveaux besoins et des nouveaux usages qui émergent. Donc, c'est pour cela que nous avons conçu des actions qui se veulent en fait ouvertes à l'apprentissage et donc non pas figées tout au long de la durée du projet. Il s'agit ici de coupler en fait l'infrastructure technique innovante qui sera développée dans le cadre de ce projet avec une véritable infrastructure sociale capable de produire, au moins c'est notre souhait, de produire donc une transition socio-technique qui va des capteurs et des réseaux de capteurs existants vers des capteurs plus performants. La prochaine slide, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et donc, nous avons imaginé toute une série d'actions qui vont de l'animation d'ateliers ouverts, non seulement avec les chercheurs et l'ingénieur impliqués dans le projet, mais aussi avec les gestionnaires, avec les citoyens, au niveau des sites et dans les différentes phases de développement, pour précisément réduire la distance entre usagers et développeurs, et donc renforcer le couplage entre système social et système technique. Bien sûr, ici, l'enjeu est de taille, dans le sens que nous savons tous que souvent, un des ennemis principaux des capteurs et des systèmes existants, ce sont les vols, ce sont, disons, la destruction en fait, du matériel, la perte, qui est au moins c'est notre hypothèse de travail, liée précisément à cette distance entre société et disons science. Nous proposons des ateliers qui sont animés par des spécialistes de la médiation scientifique. Nous proposons aussi des ateliers étudiants pour former les développeurs, les usagers du futur, ainsi que toute une série d'autres actions qui visent en fait à développer à la fois des plateformes, disons renforcer les capacités de certains types d'acteurs que nous avons identifiés au préalable, mais aussi développer des objets d'interface capables précisément de réduire cette distance. Bien sûr, c'est quelque chose que ce sont des actions qui sont de low-hanging fruits. Ce sont des actions que pour l'instant on a pu intégrer dans le projet, mais qui bien sûr, dans le cadre de ce projet Equipex, ne peuvent pas être développées complètement. Et donc, c'est pour cette raison que, avec les collègues, nous souhaitons, dans le futur, aller proposer un projet complémentaire qui puisse nous permettre de renforcer toutes ces actions, les mettre en œuvre de façon plus systématique à travers tout le réseau des zones ateliers et tous les observatoires OSCAR, mais aussi qui nous permettent de faire de la science. C'est-à-dire d'observer la mise en œuvre de cette transition socio-technique et en comprendre un peu plus. Merci beaucoup.
Alors, l'implémentation de ces systèmes de capteurs connectés, de ces réseaux de capteurs, elle va se réaliser donc au niveau des sites de RZA et du réseau OSCAR. Donc, pour rappel, hein, vous avez la carte ici avec la localisation de ces sites, donc en rouge, les points rouges, donc les sites OSCAR. Et cette implémentation, en fait, elle a été construite pour… oui, diapo suivante, s'il te plaît, Laurent. Elle a été pensée, en fait, de manière à répondre à un certain nombre d'enjeux transversaux hein, qui apparaissent ici et qui sont finalement à l'interface entre des questionnements à la fois des gestionnaires, mais également des questions que se posent nos communautés scientifiques. Et donc, les quatre axes thématiques qu'on a identifiés et qui nous ont donc orientés dans cette stratégie d'implémentation, donc, ce sont le capital sol, les ressources en eau, le statut chimique et la santé des organismes et l'intégrité de la biodiversité et des paysages. Donc, à chaque fois, pour chacun de ces axes, on va donc s'appuyer sur des capteurs développés dans le cadre de Terraforma. Vous avez des exemples qui sont donnés à chaque fois pour ici. Mais également, comme ça a été indiqué par Laurent, on va également tirer profit d'une complémentarité avec des capteurs déjà existants, simplement de manière à utiliser ces capteurs-là pour vraiment venir couvrir donc les questions qui nous intéressent. Et donc, ceci va se faire également en s'appuyant sur les communautés de gestionnaires et les communautés scientifiques associées à chacun de ces axes thématiques. L'intelligence artificielle restant, elle, une action transversale qui va permettre également de coordonner le déploiement, la récupération des données au niveau des capteurs, leur traitement, etc. Ça a été évoqué par ailleurs. Alors ici, vous avez une illustration qui vous montre sur un site en particulier cette stratégie d'implémentation de manière concrète. Donc vous voyez les différents capteurs, notamment ici en bleu des capteurs dans l'eau, en marron donc des capteurs au niveau aérien et notamment au niveau des sols particulièrement. Et donc, alors la localisation de ces capteurs, bien sûr, elle n'est pas aléatoire. Elle va chercher à venir documenter des processus particuliers dans des zones clés, à des moments clés, notamment des zones d'interface, interface par exemple entre les eaux de surface et les eaux souterraines, interface aquatique terrestre, également les passages de la faune pourront également conduire donc à déployer certains capteurs. Et donc, l'implantation de ces capteurs va être coordonnée également avec la mise en place donc, de l'infrastructure réseau, bien sûr, pour récupérer efficacement, pour collecter donc, les informations générées donc, par ces capteurs et les transmettre vers une solution serveur pour ensuite pouvoir afficher, exploiter, traiter également ces données. Donc, l'implémentation va se réaliser en trois étapes. Tout d'abord, le co-déploiement, donc j'ai illustré cette co-localisation, peut-être c'est important d'insister là-dessus, sur le fait que les différents capteurs donc, sont à chaque fois déployés sur un même site. Donc co-déploiement sur trois sites pilotes dans un premier temps, qui ont été identifiés déjà, donc le col du Lautaret, le site d'Oradé dans le Gers et le site de Plumeur-Guidel en Bretagne. Donc ça va permettre, cette première phase va permettre d'éprouver le système et de finaliser le développement pour ensuite passer à l'implémentation sur un nombre de sites plus important, sur 12 sites supplémentaires, donc des sites qui ne sont pas encore identifiés à ce stade, mais l'idée c'est d'avoir grosso modo un site par zone atelier et de prioriser autant que possible des sites qui sont co-labellisés RZA Oscar. Enfin, et là c'est une perspective à plus long terme, à l'issue du projet Terraforma, l'idée bien entendu, ça va être de disséminer les outils développés, de ne pas restreindre leur usage aux observatoires qui ont été développés ici à titre de prototype, mais au contraire de faire profiter la communauté la plus large possible de ces différents outils.
Alors, le projet a été soumis en juin dernier. La question maintenant est de savoir comment faire fonctionner Terraforma. La prochaine étape, c'est très prochainement les résultats du PIA3. Ça devrait pas tarder. Et puis, notamment, malgré tout, une volonté d'avancer sur ce projet qui nous semble très ambitieux et vraiment très excitant. Et donc, on a soumis un projet au service de la communication du CNRS pour avoir une identité visuelle et une stratégie de communication. Bien sûr, si le projet ne passe pas, il y a malgré tout des opportunités pour que cette idée Terraforma fonctionne et prenne et soit développé un peu plus spécifiquement sur certaines parties. Et notamment, il y a plusieurs appels à projets de la METI, qui est un défi changement climatique. Première année, il a été ouvert cette année, il sera réouvert l'année prochaine. Les projets de l'INSU avec deux eaux, et puis ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer un axe transversal entre RZA et OSCAR pour financer des actions communes. Donc voilà, petit slide de synthèse qui rassemble en fait l'ensemble des laboratoires impliqués, des instituts et puis des différents soutiens qui ont été obtenus. Merci à tous pour votre attention.